affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Au cours de l'heure qui vient, nous allons transmettre des idées, des concepts, des réflexions, des pensées, peut-être même des émotions, en énonçant simplement des mots. Cela nous paraît naturel, et cela l'est. Mais c'est aussi un petit miracle, ou à tout le moins un phénomène extrêmement complexe, qui vaut la peine que l'on s'y arrête. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir Jean-Noël Robert. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres et professeur au Collège de France. Et vous allez nous présenter les actes du colloque que le Collège de France avait justement consacré en 2018 au thème « Langue et science, langage et pensée », des actes qui ont été publiés le 7 octobre dernier aux éditions Dijacob. Autant vous prévenir tout de suite, chers auditeurs, en matière de langage, il faut se méfier des fausses évidences, tout questionne. La preuve en est que, si j'ai bien compris, ce colloque devait initialement avoir pour un titre en deux mots, langue et science, mais comme il ne suffisait pas, il y fut associé les mots langage et pensée. Cet ajout en dit long, il révèle l'étendue du périmètre qu'il nous revient d'explorer. Le langage, en effet, est un univers en soi, peut-être même, comme l'exprime la Bible, est-il une création du langage ? C'est quelque chose que j'ai lu dans les actes du colloque. Au départ, était peut-être le verbe, mais assez parlé. Avant d'en venir à la genèse du monde, abordons la genèse de ce colloque qui n'est pas moins riche.
En effet, c'est comme vous l'avez très bien souligné, il y a deux grands thèmes dans ce titre. Et d'ailleurs, quelqu'un qui l'a commenté disait on croirait un sujet de bac, tout à fait faux. À vrai dire, ça provient déjà d'une confrontation, c'est bien un grand mot, mais disons de nuances de conception, essentiellement entre les humanistes, il y avait donc Antoine Compagnon et moi-même, et les scientifiques qui étaient mathématiciens et informaticiens, qui étaient Gérard Berry et Stanislas Dehaene. Entre parenthèses, si je puis me permettre, je suis absolument confus de voir que dans l'introduction que j'ai rédigée, d'une parenthèse que j'avais ajoutée plus tard, était tombé le nom de Stanislas Dehaene, qui faisait bien sûr partie, non seulement faisait partie de notre petit comité, mais qui en était l'une des instances les plus présentes et à qui nous devons énormément. Alors
Dieu merci, son intervention figure dans le
livre. Oui, heureusement, oui. Enfin, je viens m'excuser publiquement auprès de lui. Et en effet, je tenais moi-même plutôt à la première partie, langue et science, pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir plus tard, mais c'était quelque chose de très concret, c'est-à-dire comment les langues et les différentes langues se sont réorganisées pour exprimer une pensée scientifique. Et vous verrez que c'est un sujet historique et pas... Enfin, nous verrons peut-être que c'est un sujet historique et pas philosophique. Et de l'autre côté, ce sont évidemment les préoccupations de Stanislas Dehaene qui sont absolument passionnantes aussi et qui retombent bien sûr aussi sur les questions de l'informatique. C'est le langage même, le langage dans le sens de la fonction la plus... à la fois la plus élémentaire et la plus distinctive de l'espèce humaine, mais nous voyons bien qu'il y a aussi des nuances à apporter, et l'expression de la pensée. Donc ce sont deux domaines radicalement différents, en quelque sorte, que nous avons mis ensemble.
Mais qui se répondent l'un l'autre.
En effet, oui. Alors je dis souvent pour plaisanter que c'est un peu comme dans la chanson de Fernandel, Félicie aussi, n'est-ce pas, l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis, c'était à peu près ce que nous avions ici. Et au début, nous étions très inquiets de la façon dont tout cela allait se mélanger, se répondre, et ça. Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, pour moi, ça a été un colloque vraiment passionnant. Nous avons justement eu affaire à des visions tout à fait différentes, mais qui apportent des choses, des idées, même dans les domaines dont je croyais qu'ils étaient hermétiques l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction où je parle à la fois de la cabale et de la pensée ésotérique japonaise, parce que, de façon tout à fait surprenante, il y a ce genre de choses qui sont arrivées du côté des scientifiques.
Alors, je confirme, les actes de ce colloque sont passionnants. Ils forment un tableau un peu à la manière pointilliste. Chacun apporte sa petite touche. Mais oui. Si on veut bien prendre quelques pas de recul, eh bien, c'est formidable. Il prend sens, mais il conserve une vie. C'est-à-dire que c'est un tableau, mais dynamique. Le sujet n'est pas épuisé, et les questions appellent une question. Mais finalement, c'est ça le langage, d'ailleurs. Un mot véhicule une idée, on le sait, en appelle une autre. Mais mettons d'abord une focale un peu plus resserrée sur la première partie que vous évoquiez, donc langue et science. Quel était le questionnement initial ?
Alors, c'était quelque chose qui me travaille, si je puis dire, depuis longtemps, et d'abord par pure incompétence, puisque je suis absolument, et ce n'est pas du tout je ne m'en vante pas du tout, c'est vraiment quelque chose que je porte comme une honte et un stigmate. Je suis nul en maths, mais je suis très intéressé de voir, je suis très impressionné par certains mathématiciens qui déduisent les langues. C'est-à-dire, je connais quelques mathématiciens qui sont passionnés par l'étude des langues, et j'en connais un dont qui était professeur au Collège de France, d'ailleurs, qui est maintenant retourné aux États-Unis. Il s'appelle Don Xavier, n'est-ce pas, avec qui je parlais souvent, parce qu'il avait appris des tas de langues, mais en quelque sorte en les rationalisant, en comprenant le système. Alors parfois des choses qui n'étaient, vous me direz, peut-être pas si difficiles. Il avait appris le norvégien à partir du danois, de l'allemand et du néerlandais et de l'anglais. Il me disait, je n'ai aucune idée de la façon dont le norvégien se prononce, mais je lis des romans policiers en norvégien. Il allait aussi dans des langues comme le japonais et le coréen. Je peux témoigner qu'il lisait couramment des romans policiers japonais, n'est-ce pas ? Alors, donc, en quelque sorte, les langues, les mathématiques incluent les langues, mais les langues n'incluent pas les mathématiques, j'en sais quelque chose. Et c'est cette question qui m'avait beaucoup intéressé au départ.
Et pourtant, les mathématiques sont, à l'évidence, un langage.
Alors, oui. En effet. Alors, vous savez qu'au Collège de France, nous avons cette coutume tribale, mais qui est très intéressante, c'est que les gens qui viennent, qui candidatent, font une sorte de, comme à l'Académie française, font des visites, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on va voir chaque professeur du Collège de France et on s'entretient avec lui une heure en général autour de quelque chose. Et chaque fois que je recevais un mathématicien, je lui posais la question de savoir si il pensait que sa langue maternelle influait sur sa recherche en mathématiques. Ce n'était pas une question gratuite. Certains, je crois que j'en parle dans la préface, je me souviens d'un mathématicien soviétique à l'époque qui disait qu'il était pour lui impensable de faire des mathématiques en une autre langue que le russe. Il y avait vraiment mis les choses noir sur blanc. Et c'était une réflexion qui m'avait vraiment fasciné. Donc, y aurait-il des nuances dans les mathématiques selon la langue maternelle de la personne ? Et là, j'ai eu les deux réponses. Vraiment, la réponse la plus courante de la part des mathématiciens est celle que vous évoquez, c'est-à-dire que les mathématiques sont une langue au-delà. Donc une langue en soi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du langage naturel, puisqu'elle est une langue en elle-même et qu'elle est en quelque sorte parallèle. Et d'autres qui me disaient, alors, soit ils finissaient par admettre par la bande que c'était quand même lié à la langue, parce que quelqu'un, une mathématicienne m'avait dit, les mathématiques, c'est avant tout affaire d'imagination. Or, s'il y a quelque chose qui est bien lié au langage, c'est l'imagination. Alors, c'était mon premier questionnement. Cela.
Alors, vous nous dites d'ailleurs que la diffusion des mathématiques et des sciences a donné lieu à une sorte de réforme des différentes langues.
Voilà, oui.
Sujet historique absolument fascinant que, pour ma part, j'ignorais totalement. Vous pouvez nous exprimer cela.
Ah oui, alors c'est malheureusement quelque chose qui n'apparaît pas suffisamment dans ce colloque, et je compte bien y revenir. Vous savez, si vous lisez un livre comme Lefebvre, les problèmes de l'incroyance au XVIe siècle, à la fin du livre, il dit quelque chose comme la langue scientifique n'était pas encore formée au XVIe siècle, et le latin était trop imprécis pour... Justement, il ignore délibérément la suite. C'est que entre le XVIe et XVIIe siècle, c'est vraiment formé. Alors, c'est un thème qui est maintenant qui devient un domaine de recherche passionnant. Vous savez que nos amis britanniques, lorsqu'ils parlent leur langue, c'est truffé de mots très pédants de latin, etc., que nous n'avons plus en français. Il y a eu vraiment une réorganisation des langues à partir de la grammaire latine pour s'exprimer de façon plus, disons, rationnelle. Et cette rationalisation des sciences, des langues comme l'anglais et le français, s'est fondée sur la grammaire latine dans le but d'exprimer...
De pouvoir véhiculer les sciences et les concepts scientifiques.
Oui. Galilée est peut-être le premier exemple de ça.
C'est-à-dire que si je schématise, on aurait abandonné volontairement un langage truculent, plus vivant à la Rabelais.
Oui, très tout à fait, oui.
De façon à pouvoir accueillir la nouvelle appétence scientifique qui naissait à ce moment-là.
Voilà. Et en remodelant, même remodélisant la langue sur la grammaire latine, on parle souvent de la latinisation ou bien de la grammaticalisation des langues. Et vous voyez, c'est concomitant pratiquement à la création de la Royal Society, n'est-ce pas, au XVIIe siècle, qui... Et d'ailleurs, enfin, c'est un travail passionnant et qui est fait, par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle M. Mandozio à l'École pratique des hautes études, qui travaille justement sur les textes magiques et scientifiques du XVIe, XVIIe siècle, parce qu'en fin de compte, il y a un parallélisme. Alors c'était cela qui m'intéressait au départ, et de voir comment ce mouvement s'est après diffusé dans les langues de l'Extrême-Orient. Le chinois, même à partir du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, les missionnaires, c'est surtout à partir du XVIIIe siècle, ça commence au XVIIe siècle, mais les missionnaires, exportant l'astronomie, les mathématiques, vous avez des traités de mathématiques en langue mandchoue, par exemple, qui sont faits par les missionnaires. Donc cette espèce de langue scientifique va se diffuser dans le monde entier et aboutir à la situation linguistique actuelle où vous avez des langues qui expriment à peu près les mêmes choses.
Donc, ce qui signifie qu'elle serait bien, cette langue-là, scientifique, serait bien universelle, mais au sens factuel des choses.
Exactement.
Mais
oui,
pas
oui.
Initialement en elle-même.
Voilà, voilà.
Donc, ce serait plus une uniformisation qu'une capacité à exprimer quelque chose d'universel.
C'est un procédé historique, c'est un processus historique, il n'y a pas d'autre. Mais en même temps, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on voit que, vous savez, on a souvent discuté, vous vous souvenez, c'est une histoire qui était bien connue à l'époque, je ne sais pas si elle est vraie, mais on disait qu'un rapport secret des services américains avait dit que les soviétiques n'auraient jamais la bombe atomique parce qu'il n'y avait pas d'article défini en russe. Donc, sans article défini, on ne pouvait pas raisonner scientifiquement. 20 ans plus tard, j'espère que ce n'étaient pas les mêmes, on dit que les Chinois n'auraient jamais la bombe atomique parce que les Chinois n'ont pas d'article, pas de temps, pas de pluriel, donc ils ne peuvent pas raisonner scientifiquement.
Et à l'inverse, les nationalistes indiens expliquent que le codage a été fait à partir du... Les plus élaborés sont faits à partir du sanskrit, c'est ça?
Alors, il y a ça aussi, d'ailleurs, c'est M. Huet qui en parle, et il est vrai que la grammaire sanskrite est un monument de mathématiques linguistiques avant la lettre, enfin de logique. C'est quelque chose d'absolument sidérant. Mais on a exagéré ce côté-là. Mais le fait est qu'il y a eu toutes les langues, une fois qu'elles ont un modèle à côté, peuvent exprimer ce qu'elles veulent. N'est-ce pas ? On le voit très bien dans la diffusion. Dès que vous savez ce que vous voulez dire, eh bien vous le dites dans votre langue, même si vous n'avez pas les moyens.
Ça fait d'ailleurs l'objet de votre intervention, vous expliquez de oui, façon oui, pour, ah oui, le concept c'est... de futur est passé du sanskrit à la langue chinoise et ensuite
voilà, oui, oui.
Expliquez-nous ça parce que c'est fascinant.
C'est quelque chose qui... Et même je pourrais ajouter d'autres choses à ça. Je vois la première, je l'ignorais encore lorsque j'ai écrit ça, la première mention des trois temps dans les langues occidentales, c'est dans l'Iliade. Déjà, il y a un vers de l'Iliade qui parle de ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Et après, ça a été. C'est une sorte de donnée de la grammaire. Hein. Vous avez trois temps, etc. en sanskrit. Or, les Chinois n'avaient pas de temps grammaticaux. Et vous demandez maintenant à n'importe quel Chinois, à n'importe quel Japonais, combien y a-t-il de temps ? On vous dira trois temps. C'est parfaitement naturel. Or, c'est un processus historique. Il y a un moment où vous n'aviez aucune conception des trois temps en chinois. Ce qui ne voulait pas dire que les Chinois ignoraient y aura-t-il du gibier demain, etc. Mais l'idée que l'avenir et que le futur, même grammatical, est une autre dimension, et donc que nous sommes dans qu'il y a un présent séparé du futur, conceptuellement, parce que maintenant vous avez des physiciens qui nous disent que ce n'est pas vrai, mais je parle de la...
De la vision du monde.
Oui, voilà. Eh bien, c'est vraiment un processus historique que l'on peut suivre à la trace. C'est la pensée bouddhique arrivée en Chine qui a véhiculé ça, puisque nous avons les conséquences futures de nos actes présents. Se situe dans une dimension bien précise qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est pas seulement le futur de notre vie, mais c'est le futur d'après notre vie, n'est-ce pas ? Le monde d'après.
Si j'ai bien compris votre intervention que j'ai lue, c'est lié donc à la notion de karma, oui. La vie d'avant.
Voilà, donc il y a une notion de causalité en même temps, puisque le karma c'est vraiment les liens causaux, n'est-ce pas ? Et ce qui est une pensée aussi quasiment. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de physiciens en France étaient souvent et encore maintenant sont fascinés par le bouddhisme à cause de ce caractère, disons, extrêmement rationnel, causal de la pensée bouddhique, enfin de certaines doctrines bouddhiques.
Alors à travers cet exemple, on retouche du doigt. Les liens entre une pensée et une grammaire ou un vocabulaire, enfin bref, un langage. Un des participants en colloque, Marwan Rached, revient sur ce problème fondamental dont on se souvient qu'il avait fait l'objet d'un article célèbre d'Émile Benveniste qui expliquait... J'exprime les choses très simplement, de façon radicale et simplifiée. Donc, Émile Benveniste expliquait que la physique d'Aristote était une sorte de décalque ou de conséquence directe de la grammaire grecque. Et dans cette... Bon, ça, on s'en souvient, mais dans cette intervention, on découvre avec stupéfaction que le même débat avait eu lieu, voici 1000 ans, si je ne me trompe pas, en Syrie,
oui.
Entre deux savants arabes, qui déniait également à Aristote la possibilité de toucher du doigt l'universel, parce que précisément, il s'exprimait en grec, et que donc adopter une vision aristotélicienne, eh bien, c'était simplement se transformer en grec et pas toucher à l'universel.
Oui,
c'est
oui,
quand
oui.
même fascinant.
Oui, oui, c'est quelque chose de très... Et on est au cœur aussi d'un sujet fondamental pour la pensée, non seulement européenne, mais je dirais eurasiatique. Alors là, le débat est affiné. Il y a une collection de linguistique aux Pays-Bas qui est entièrement consacrée à l'expression du verbe être dans toutes les langues. Il y a déjà des dizaines, presque des centaines de volumes, parce qu'on voit que c'est quelque chose d'intéressant. Et comme le souligne aussi Marwan Rached, il n'y a pas en arabe d'équivalent du verbe grec. Du verbe grec « être », qui a cette ambiguïté fondamentale qui fonde à la fois... Il y a très peu de langues qui ont, ce défaut de fabrication où le verbe « être » exprime à la fois l'état et l'existence. « Je suis étudiant, je suis dans la classe ». Et à partir de ça se fonde une métaphysique qui va jusqu'à Heidegger. L'arabe va exprimer cela à travers plusieurs langues. Par exemple, l'un des mots arabes qui signifie être se trouvera aussi dans le mot qui veut dire genèse, n'est-ce pas, création. Donc, l'autre mot qui est utilisé le plus souvent pour l'être aristotélicien, c'est le mot qui veut dire existence. Vous voyez, il y a on est obligé de... Et malgré cela, la pensée arabe va joindre les deux par-delà cette dichotomie.
Alors, oui, c'est ce que vous dites, c'est quand on apprend l'existence d'un concept qui est exprimé par une autre langue, la langue est suffisamment plastique pour se l'approprier à sa façon, éventuellement avec des subterfuges.
Oui, voilà. Et elle va s'ouvrir sur d'autres formes de réflexion qui ne seront pas du tout celles du départ. C'est ça qui est passionnant. Et oui. D'ailleurs, si je peux ajouter toute petite digression, parce que à propos de la néologie, vous savez, de faire des mots nouveaux, beaucoup de gens critiquent cette manière un peu bizarre qu'on a en France d'essayer de faire des mots non anglais, bon, parfois plus ou moins heureux, mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que chaque néologisme que vous faites débouche sur une autre pensée. Que si vous adoptez un mot, je pourrais par exemple prendre l'exemple des mots, du vocabulaire sino-japonais pour des mots comme culture, civilisation, écriture, astronomie. Ça n'a rien à voir en français par le vocabulaire, mais en chinois et en japonais, ces quatre mots et beaucoup plus sont fondés sur le mot qui veut dire culture, disons littérature. Et donc l'astronomie et la civilisation se trouvent rassemblées et l'écriture se trouve rassemblée à travers un mot. Si on avait adopté le vocabulaire occidental, évidemment ça n'évoquerait plus rien. Mais en le réinsérant dans les langues de l'Extrême-Orient, ces néologies débouchent sur d'autres formes de penser. C'est pour ça que ça me semble quelque chose qu'il faut vraiment approfondir.
Vous voulez dire par là que lorsqu'on acclimate à notre propre langue des mots étrangers, loin d'obéir simplement à un réflexe cocardier, on enrichit le dialogue.
Exactement. C'est tout à fait. L'un des très bons exemples, c'est le mot ordinateur, n'est-ce pas ? Vous savez que le mot ordinateur, pour traduire l'anglais computer, qui prononcé à la française laisse... donne la place à des jeux de mots vaseux. IBM avait été conscient de cela. Ils avaient demandé à un Français de trouver un mot. Et le Français auquel ils avaient pensé, alors je ne sais pas comment, mais c'était un latiniste, il s'appelait Jean Perret, j'oublie son prénom, je crois que c'était Jean-Pierre Perret, qui est le traducteur de Virgile. Et lui a pensé à ordinateur. Et vous voyez que ordinateur est un mot bien plus riche pour exprimer ce que fait le computer que le mot computer qui ne fait que calculer. Comme en russe d'ailleurs, c'est rechnik, le calculateur. L'ordinateur donne tout de suite une idée de ce que fait le computer au-delà du calcul. Et ça nous donne ce qui a permis aussi en français d'implanter le mot logiciel. Qui s'est très bien implanté en français parce qu'il est lié aussi au concept d'ordinateur, n'est-ce pas ? Enfin voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres.
Donc c'était demandé à Perret et pas à Perret qu'on imagine.
Ça aurait pu aussi. Oui, oui. Il n'aurait pas mis de E, peut-être. Ça aurait été l'ordinature.
Mais revenons à ce lien entre. On va passer progressivement, même si on a déjà fait beaucoup d'allers-retours, ce lien entre langage et pensée, il y a plusieurs interventions qui reviennent à ce problème fondamental, de savoir, comme se le demandait donc déjà Benveniste à propos d'Aristote, est-il possible de penser sans les mots ?
Oui, alors ça c'est un vraiment c'est alors ici nous avons quelques j'étais tout à fait fasciné par l'un des articles sur la pensée animale et peut-être même la pensée de groupe, n'est-ce pas, et ce n'est pas l'auteur évidemment qui l'a dit, ce délire n'est dû qu'à moi, mais je pensais à cette théorie qui avait été énoncée il y a bien longtemps par un astrophysicien qui disait qu'en fin de compte la pensée étant liée à la complexité entité, des structures extrêmement complexes comme les galaxies pourraient donner naissance à la pensée. Il voyait un peu les étoiles comme des neurones, enfin je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Et là, il y a quelque chose qui apparaît là-dedans, dans ces grands mouvements collectifs des bandes de poissons, des hirondelles, etc., où ce sont donc des petits effets de proximité qui donnent finalement de grands mouvements. Et on peut penser, parce qu'on ne connaît toujours pas l'origine du langage, je ne suis pas du tout partisan de ça, mais pourquoi pas, et ça pourrait nous aider, le langage à partir de signaux d'alerte, de, vous savez, la marmotte ou je ne sais quoi qui siffle quand arrive un prédateur, et à partir de là, on serait arrivé à la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel.
Oui, il faut prévenir nos auditeurs, cet ouvrage va très très loin, mais c'est pourquoi il intéresse au-delà des simples spécialistes. Car on part des mathématiques, on arrive à la métaphysique, on part des neurosciences et on arrive à la primatologie, enfin les allers-retours sont permanents, et tout le monde peut y trouver de quoi nourrir sa pensée justement. Toutefois, revenons à... Moi, j'étais frappé par cette pensée qui arrive au bout, justement, de ce déroulé, que tout serait information.
Oui.
C'est-à-dire qu'on commence par se demander ce qu'est le langage, et la tentation est là, où si ce n'est pas exprimé tel quel, parce qu'évidemment, je n'ai pas la subtilité de ceux qui s'expriment, et puis j'ai dit c'est pointilliste, mais on a un peu le sentiment que, quelque part, tout est information. Un des exemples les plus frappants étant cette idée que l'univers communique avec nous...
Oui.
Via des codes-barres.
Oui, ça c'est extraordinaire, oui. Qui est aussi la matière du roman d'Alain Cohn, justement, le spectre de Tatiama.
Au fond, c'est vrai. Même quand si on se penche sur l'être humain, on sait maintenant que nous sommes faits d'ADN. C'est un code. Et toute matière aurait donc un spectre qui révélerait sa nature, c'est ça ?
Oui, oui, alors c'est... Il y a deux, non pas deux réponses, mais au moins deux voies sur lesquelles nous pouvons nous aventurer à partir de cela. C'est pour qu'il y ait communication, il faut en effet qu'il y ait deux pôles. Donc pourquoi pas l'univers communiquant avec nous qui sommes les... Alors est-ce que nous donnons notre sens à l'univers ou y a-t-il vraiment communication entre les deux, c'est une question à explorer. L'autre voie, qui est un peu celle de certaines doctrines bouddhiques, c'est que, et c'est un peu, ce n'est pas du tout incompatible avec la première, mais c'est que en réalité, il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire que, et c'est l'esprit qui communique avec lui-même, le mind, n'est-ce pas, le mens en latin, qui serait une sorte d'esprit universel. C'est une école bouddhique qu'on appelle justement le rien que penser, le rien que conscience, qui dit qu'à travers tous les phénomènes, les phénomènes extrêmement gradués, séparés de la réalité, eh bien, ce n'est que le développement d'une pensée unique et primordiale. À ce moment-là, nous ne ferions que parler avec nous-mêmes, comme dans notre salle de bain. Et ça serait aussi une autre solution. Et ça pourrait résoudre le fait, la question de savoir, y a-t-il pensée sans langage ? C'est-à-dire qu'il y a pensée... Dès le départ, enfin, vous voyez, ça peut nous mener. Et le langage n'est que l'une des dégradations de la pensée dans l'existant. C'est l'une des solutions qui peut en effet être proposée pour cette question, qui avait été déjà posée par Ruffier, je me souviens, qui était déjà professeur, j'ai oublié aussi son prénom, qui était professeur au Collège de France il y a bien longtemps, spécialiste des groupes sanguins dans l'humanisme, ce qu'il faisait, il faisait vraiment des recherches extraordinairement, un peu comme Cavalli-Sforza, n'est-ce pas, il faisait des recherches pluridisciplinaires à travers génétique, ethnologie, théologie, etc. Et il avait aussi envisagé la pensée avant de l'engager. On a tous cette idée, d'ailleurs, c'est presque un fait d'expérience. On sait ce que l'on veut dire, mais on ne parvient pas à le dire. Il y a une espèce d'intervalle très très bref où on a déjà une idée, mais on ne sait pas comment l'exprimer.
Et... C'est un peu platonicien comme ça.
Mais oui, cette idée, c'était peut-être pas platonicienne, mais simplement il y a quelque chose, un affect, comme on dirait maintenant, qui a besoin de mots, et les mots viennent après.
Alors du reste, si je ne me trompe pas, les expériences formées notamment par Stanislas Zehen confirment un petit peu cela, puisque même dans l'exercice des mathématiques, certaines aires cérébrales se mettent en branle avant même qu'il y ait formalisation par des chiffres.
Voilà, ça c'est
donc il y a une intuition mathématique qui préexisterait à sa formalisation dans le langage mathématique.
Oui, justement, oui, ça c'est quelque chose. De... Alors là, on est en plein justement.
Mais à l'inverse, pour montrer quand même ce caractère réflexif, parce qu'on finirait par croire, comme vous l'avez presque dit tout à l'heure, que le langage serait une version dégénérée, si j'ai bien entendu, d'un esprit primordial.
Dégradé à son niveau. C'est-à-dire voilà. Que...
Oui, il faut peut-être préciser, parce qu'à l'inverse, si j'ai bien compris, il y a une intuition au départ, mais ça, les animaux peuvent l'avoir aussi, parce que c'est quelque chose qui tient du perceptif. Et dans un second temps, grâce au langage, on la formalise, et puis ce langage prend vie et permet d'aller plus loin. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que...
C'est l'une des pistes que je voudrais... Pour la dégradation, je parle... Enfin, comme disait Maritain, les degrés du savoir, n'est-ce pas, qui sont liés, en fin de compte, les niveaux de l'être, en réalité. Et alors, je répète tout simplement, très, très bêtement, ce que disait mieux que moi le moine bouddhique Kukai, qui n'est pas la marque de vêtements, qui est mort dans le premier tiers du 9e siècle, qui répétait de façon extrêmement personnelle déjà des idées indiennes, où chaque niveau d'être, des fourmis jusqu'au bodhisattva, n'est-ce pas, ont le même axe de langagier. Qu'ils expriment à leur façon. Et cet axe a pour point de départ une dimension tout à fait métaphysique qui est le langage absolu, la lettre absolue. Ils ne distinguent pas lettre et phonème, phonème et graphème, et qui est vraiment qui serait dans ce niveau. Alors on pourrait peut-être penser chez nous tout simplement le mettre au niveau pré-pensée, tout simplement. Tout ce que nous exprimons est une expression insuffisante d'une pensée qui serait peut-être... Je suis toujours fasciné par les bébés. On a l'impression qu'il y a une espèce de sagesse de comportement des bébés, d'intelligence qui n'est absolument pas fruit d'un enseignement quelconque, mais est-ce que c'est justement une espèce d'expression de cette pré-pensée, enfin voilà, quelque chose comme ça.
Il n'en reste pas moins qu'il se concentre énormément pour acquérir des mots.
Oui, justement. Alors,
et sortir de cette sagesse initiale.
Oui, justement. Et c'est là que l'on devient individu. Vous savez que les bébés sont polyglottes, n'est-ce pas ? Ils prononcent n'importe quel mot et quel son. Et puis, peu à peu, au bout de très peu de mois, ils éliminent tous les sons qui ne sont pas dans le système phonique de leur langue. Ce qui est, après, il faut avoir... c'est pour ça que j'entraînais ma fille à rouler les R à l'italienne pour qu'elle n'oublie pas ça.
Pour qu'elle ait ça dans ses bagages, voilà, qu'elle puisse s'y mettre plus facilement.
Si elle devenait cantatrice plus tard.
Bon, cela dit, cet exemple des bébés est extrêmement intéressant parce qu'il nous amène vers parce que lorsque le bébé prononce des mots, au départ, bien évidemment, il ne connaît pas nécessairement l'idée qui est derrière ce mot. Et pourtant, il la prononce. Il la teste et petit à petit, il l'acquiert. Ce qui nous amène à cet autre problème, c'est que nous sommes extrêmement nombreux et probablement moi-même aujourd'hui au cours de cette émission, j'ai utilisé des termes que je ne maîtrise pas parfaitement, que j'ai lancés dans la conversation en espérant que vous en empareillez pour le définir. Mais voilà, le langage peut se passer en utilisant des mots dont on ignore le sens réel.
Oui, il y a maintenant cette expérience fascinante que j'aimerais suivre plus attentivement, de dialogue avec les machines, pour voir à partir de quand on s'aperçoit qu'on parle avec une machine. Et les intervalles sont de plus en plus longs. C'est-à-dire que la machine vous trompe de plus en plus longtemps. Enfin, est-ce qu'elle vous trompe d'ailleurs ? Elle nous répond ce que nous attendons. Nous sommes très, très contents. Alors, je voudrais vraiment beaucoup faire cette expérience. Mais ça marche de mieux en mieux. C'est ça que c'est-à-dire que alors c'est littéralement la parler pour ne rien dire, puisque on peut penser que la machine ne pense pas. Elle répond vraiment, enfin pour l'instant, elle répond vraiment à des. Je pense qu'il s'agit de statistiques de conversation. Enfin, c'est un peu le parler de la pluie et du beau temps en l'élaborant un peu.
Et oui, là c'est l'exemple de la vacuité.
C'est la langue qui se parle vraiment. En latin, loquitur, n'est-ce pas, le déponent qui exprime l'impersonnel. Ici, c'est vraiment la langue qui se parle elle-même et n'a pas besoin de locuteur en quelque sorte, ce qui est un peu démoralisant. Mais ça serait très intéressant pour faire des articles scientifiques aussi. Ça aiderait.
Oui, mais il y avait une machine assez drôle, mais qui a des implications philosophiques incroyables. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle le Pipotron. Vous ne connaissez pas le Pipotron? Il y avait une version sur ordinateur. En fait, il s'agit de... C'est un petit peu comme un bandit manchot, vous savez. Vous tirez sur un manche numérique et puis toute une série de mots, par exemple, à une science comme le management, forme une phrase avec des mots, mais recomposer sans cesse dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois... Ça peut être cocasse, mais on se rend compte qu'on peut les intervertir. Pourquoi ? Non pas parce que ces mots sont absurdes, mais parce que nous avons tellement l'habitude de mal les utiliser, qu'après tout, les mélanger dans le désordre, ça donne toujours quelque chose.
Oui, c'était Raymond Queneau qui avait fait son poème modulable, n'est-ce pas ? Vous pouviez en faire, je ne sais plus combien, à partir de quelques pages. Mais c'est ça le danger des langues, en effet, c'est qu'on peut vraiment parler pour ne rien dire. Il y a quelques hommes politiques qui en donnent aussi, mais beaucoup de professeurs aussi. Donc il y a une espèce d'automatisme de la langue que l'on voit très bien. J'étais abonné, l'un des rares abonnés au quotidien du peuple de Pékin dans les années 70. Et c'était merveilleux, justement. On voyait la machine. Donc pendant un an, j'ai reçu tous les jours une vingtaine de pages en chinois, dense et extrêmement. Enfin, c'est facile de critiquer parce que si on lisait, on pourrait peut-être apporter le même genre de critique, sauf que c'est plus élaboré dans d'autres. Mais le quotidien du peuple, c'était vraiment tout à fait singulier de voir cette langue qui roulait
qui sur elle-même.
C'était. Il ne faut pas penser qu'être journaliste dans ce genre de journal, c'est très reposant, parce que la situation politique était très, très, très perturbée. Donc là, quand même, la moindre virgule comptait bien que ce...
Oui, les inflexions de l'article devaient suivre les inflexions des bureaux, j'imagine.
Et d'ailleurs, il y avait des gens spécialisés pour... les China Watchers, les Pékinologues, comme on les appelait à l'époque, qui pesaient les virgules, justement.
Alors, il y a quand même une version un peu moins déprimante de ces mots qu'on utilise, pas nécessairement à bon escient, mais c'est vrai que nous serions en quelque sorte des porteurs de courriers en utilisant ces mots, et donc des gens qui les transmettent en espérant qu'il y ait un relais qui les recadre, voire même, en réalité, en les maîtrisant à moitié, on leur donne une nouvelle coloration, on permet leur évolution, et on participerait collectivement, là aussi, à une forme d'enrichissement de la langue qui passerait par des inflexions.
Oui, c'est vous pensez à des exemples précis dans le... Parce que c'est vrai que
C'est exprimé dans l'une des interventions.
Oui, justement. Il y a des choses tout à fait... ça rejoint le problème de la néologie, justement, c'est que très, très souvent, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, justement, dans c'est l'un de mes refrains, je suis désolé, ce qui me frappe beaucoup, justement, dans l'évolution des langues en Extrême-Orient, qui est quand même un endroit qui m'intéresse, c'est la différence entre le chinois et le japonais maintenant. Vous savez, toujours quand même dans la suite de ce que nous disions, le japonais, dans langue et science, le Japon a été le pays où s'est vraiment constitué le vocabulaire scientifique, philosophique de l'Extrême-Orient à la fin du 19e siècle. Je simplifie un peu, mais c'est vraiment beaucoup de Chinois allaient étudier au Japon et rapportaient les idées occidentales au Japon. L'utilisation en commun qu'ils avaient des caractères chinois aidait, donc c'était exactement comme le latin grec, n'est-ce pas ? Il suffisait d'importer les termes. Et en faisant cela, les Japonais étaient en quelque sorte, pour exagérer de façon un peu grandiloquente, maîtres de la langue, maîtres des mots. Et on voit que maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Et que cette maîtrise de la langue et du vocabulaire est passée du côté de la Chine. Les Chinois utilisent vraiment très peu de mots occidentaux. Ils refont leur vocabulaire, selon les règles que je vous ai suggérées tout à l'heure. Alors que les Japonais importent entièrement le vocabulaire américain. Et si bien que vous avez maintenant des concepts qui ne veulent rien dire en japonais, sur lesquels on peut mettre n'importe quoi. L'un des termes les plus amusants, enfin, de son sens, c'est le terme de harcèlement sexuel, n'est-ce pas, qui se dit en japonais. Enfin, on a écourté le sexual harassment américain en sekuhara. Donc, sekuhara ne veut absolument rien dire. Sauf que hara, ça fait un peu penser à harakiri, n'est-ce pas, un mot un peu vulgaire, mais qui veut dire le ventre, mais à part ça, on ne comprend rien. Et si bien qu'on peut mettre n'importe quoi sur ce mot. Ou même, parce que c'est ça qui m'a fait penser dans ce que vous disiez, le mot communication, qui s'emploie très couramment en japonais maintenant, mais même des gens qui ne sont pas des gens anglicistes du tout. Et si bien que ce sont des mots, en quelque sorte, des mots vides, pour reprendre un terme grammatical chinois, des mots vides qu'on utilise un peu comme on veut.
Des mots valises, alors.
Des mots valises, mais qui en même temps ont donnent une certaine tonalité à la conversation, soit une certaine agressivité, qui ne sont jamais définis. Et ça, quand on voit de l'autre côté les Chinois qui ont un vocabulaire, par exemple pour l'informatique, c'est passionnant de voir la créativité qu'ils ont dans leur néologie, justement. Enfin, parfois qui n'est pas une créativité de conservatisme. C'est l'un des derniers pays, je pense, en Chine, où l'on parle de l'ordinateur, pour revenir à notre ordinateur, comme cerveau électronique, tiannao, qui est le vieux mot qui est encore maintenant.
Mais c'est très intéressant car ça démontre, et à deux pas de l'Académie française, ça vaut la peine d'être entendu, la langue est réellement un trésor qu'il faut enrichir, comme le savoir très très bien, mais aussi protéger, car j'ai l'impression que là, ces mots en anglais adoptés inconsidérément au Japon agissent un peu comme des bombes à fragmentation qui déstructurent.
Vraiment, c'est tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, des bombes à fragmentation, c'est une très bonne. C'est exactement ce que ça fait, parce que ça supprime la cohérence de réflexion que l'on constate quand même en Chine dans les différents domaines. Que ce soit dans l'opposition, dans la non-opposition, enfin, il y a une cohérence que l'on sent.
Oui. Écoutez, je crains que nous arrivions à la fin de cette émission alors que nous n'avons pu faire qu'est-ce qui c'est le sujet, mais c'était fatal. C'était impossible.
C'est moi qui parle trop.
Non, pas du tout. Il était impossible d'éviter cet inconvénient. Mais à quelque chose, malheur est bon, car ça me permet de chaudement recommander à nos auditeurs d'acquérir cet ouvrage et de s'y plonger. Il ouvre des perspectives réellement vertigineuses et nourrit la pensée. C'est donc Langue et science, langage et pensée, colloque de rentrée du Collège de France sous la direction de Jean-Noël Robert aux éditions Odile Jacob. Il vient d'être publié. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir ouvert tous ces champs de réflexion avec nous.
Merci infiniment, monsieur, vraiment. C'était un grand plaisir. Thank you.